Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Que d'eau. La dernière fois, nous sommes partis à l'exploration de la notion d'eau dans le potager, dans le jardin. Nous sommes partis avec la fleur au fusil. On s'est dit, oh, une heure, ça tiendra bien. Et puis, comme d'hab, en réalité, une deuxième sera super bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. Et nous allons parler encore une fois d'eau. C'est de saison, il fait beau. Nous l'espérons par chez vous. En tout cas, chez nous, c'est le cas. Nous sommes aujourd'hui avec Tita Nouben, bonjour.
Bonjour Floem.
Avec Hélène Hollard.
Bonjour.
Qui ne parle pas dans le micro. Ah. Et Marie-Laure.
Qui va essayer. Bonjour.
Bonjour.
Ah, voilà, c'est elle. Elle est apparue par la magie du rapprochement. Donc au programme aujourd'hui, les questions d'eau. On parlera de la qualité de l'eau. La dernière fois, on a un peu oublié de vous parler des arbres. C'est une chose importante. Et on vous parlera peut-être stockage, circulation, trajet. L'eau dans votre système, ça n'est pas que de l'arrosage. C'est aussi une ressource à trouver. Mais d'abord, c'est le moment des réponses à vos questions. Questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez adresser à question@radioperma.org. Alors, première question de Noémie Schinlowers. J'espère que je n'écorche pas trop le nom. Bonjour, je viens de recevoir quelques topinambours et je n'ai jamais cultivé ça. Est-ce que ça se cultive comme les pommes de terre? Sur gazon, recouvert de compost, ton épaillage, ça le fait, façon lasagne. Merci de vos avis. Alors, comment cultiver les topinambours?
C'est pas du tout exigeant les topinambours, il suffit de le mettre dans la terre et puis voilà. Le problème c'est plus de pas être envahi par les topinambours.
Et voilà, j'allais dire la même chose.
Voilà, c'est très beau par contre, ça fait des belles fleurs et tout ça, mais voilà, donc c'est pas du tout compliqué, on met un petit bulbe, même un petit morceau, ça va pousser. Il faut mettre plutôt vers les bordures du jardin et après faire attention de pas cesser envahir.
Alors moi, la manière que j'ai eue de pas me laisser envahir, c'est que je les ai plantés dans un pot. Très gros pot qui anciennement était un pot de plantation d'oliviers, vous savez, les pots de pépiniéristes là. Et puis quand j'en ai besoin de topinambours, je vais creuser et je prends là-dedans. Alors ils sont pas aussi beaux et gros avec des belles fleurs jaunes, ils n'arrivent quasiment jamais à fleurs. Mais au moins je sais qu'ils ne sortent jamais du pot, parce qu'effectivement une année où on a dû passer, repasser, repasser à coups de fourche, serpette, machin, etc. pour ratiboiser les topinambours.
Après, c'est dommage de ne pas avoir les fleurs. Tout dépend si c'est pour manger les
bulbes. Moi, c'était pour manger les bulbes. Ouais, voilà. C'est plus pour
tout
manger.
Tout dépend de l'usage.
Et accessoirement, je ne les sors jamais. En fait, je ne les sors que quand je vais les manger.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, ils restent toute l'année. Il y en a toujours. Ça ne se fait rien, ça se ressème.
Oui, oui, oui.
Et vu que le niveau de terre diminue, il me suffit juste de rajouter un peu de compost, des choses comme ça, l'année suivante. Et même pas forcément des terres de bonne qualité. Donc ça se cultive très très bien, Noémie. Tu n'auras aucun problème à cultiver du topinambour.
Et on mange des fleurs?
Non, enfin, on peut peut-être, hein, j'en sais rien. Je n'ai pas essayé. Ah, mais elles sont tellement belles que tu les regardes.
Ah oui.
Ça ressemble à des grandes marguerites jaunes, quoi.
Et comme elles sont déjà en pot...
Alors lui, il est en pot, mais il ne laisse pas fleurir.
Ça, effectivement...
Moi, je m'en sers plus en haie, enfin, tu vois, ça fait...
Ah, oui,
c'est grand, c'est comme des tournesols, si tu veux, et ça fait des...
Ah oui, d'accord.
Oui, oui, ça fait au moins 1m20 de hauteur.
Ben voilà, je vais mettre ça.
Et ça fait comme des grosses marguerites jaunes.
Ah oui, même plus qu'un mètre 20, il y a même des endroits, j'ai vu, beaucoup plus haut que ça, ça va jusqu'à 2 mètres, ça couche parfois.
Et pourquoi elles ne fleurissent pas dans le pot ?
Mais parce que...
Parce qu'elles les mangent.
Je les mange avant, et probablement parce que il n'y a peut-être pas assez de place pour aller mettre des racines très larges. Peut-être que dans ce pot, il y a peut-être des carences.
Donc tu en manges toute l'année ?
Alors, j'en mange pas toute l'année, j'en mange quand c'est la période des topinambours. Donc, plutôt automne, hiver, début de printemps avant que ça germe. Mmh. Par contre, comme il se fait un peu... Alors oui, conseil, si vous voulez manger des topinambours, mangez de la sarriette avec. et surtout, mangez-le avec parcimonie, car comme le disait ma tante, le rutabaga, ça indispose. Alors, c'est pas du rutabaga, elle avait complètement confondu. C'est les topinambours, ça fermente en fait, ça contient de l'inuline, c'est un sucre assez particulier, et ça fait mal au ventre. Mon grand-père, quand je lui ai dit que je faisais des topinambours, il m'a dit « Mais t'es fou, t'es complètement fou !» Parce qu'en fait, pendant la guerre, ils n'avaient que ça. Et je comprends que pendant 4 ans, s'ils ont eu mal au bide, pendant 4 ans, comme on peut avoir mal au bide quand on mange des topinambours, c'est pas simple. Le topinambour à faire plutôt en mélange, donc n'hésitez pas à faire plutôt des soupes avec un bout de topinambour par-ci. Ça se mange très bien cru aussi, le topinambour. Faire un plat de topinambour, c'est méthanique, hein, on va dire ça comme ça, c'est audacieux. Hein.
Même avec bicarbonate de soude, de la sarriette...
Même avec tout ça, c'est difficile. Ouais. Hein, ça...
Mais c'est très bon, par contre, c'est délicieux. Ouais,
j'aime.
Une autre question, bah, une question alimentaire, encore une, de Méo Medbass. Bonsoir, une recette avec des pissenlits à conseiller pour l'interrogation et comment choisir les bonnes feuilles ? Merci. Oh ben, y en a plein des recettes avec des pissenlits. Qu'est-ce que t'en penses,
ben,
Hélène ?
Moi, je les mange en salade. Hein. Je ne me casse pas la tête, mon niveau cuisine. Et puis même quand ils sont vieux, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut les prendre vraiment tout jeunes, bien prendre la partie blanche, etc., etc. Mais quand on les prend plus vieux, ils sont plus amers, donc c'est meilleur pour le foie, puis c'est bon. Avec un œuf mollet par-dessus. Et puis voilà.
Et la fleur, on peut faire de la confiture.
Miel de pissenlit.
Avec les boutons de fleurs, tu peux les mettre au vinaigre, comme des capres ou comme des cornichons. Ça se fait bien aussi.
Après, on doit pouvoir les faire cuire aussi, si on veut, j'imagine. C'est un peu dommage, mais bon.
C'est moins croquant, comme toutes les salades.
Oui.
Ça se fait cuire, mais bon, c'est bon. C'est moins intéressant, je trouve, qu'en salade en début de saison. Mmh. Alors, le début de saison, effectivement, c'est ce que disait Hélène, soit tu veux quelque chose qui soit un peu plus tendre et moins, avec moins le goût sauvage, et dans ce cas-là, début de saison, ça le fait bien, et le reste du temps, ça a plus le goût sauvage, mais si tu mets une pomme avec, ben, ça passe bien, une salade composée, pomme, trèfle...
Plantain,
rumex, plantain, très bon, goût de champignon, très très bon.
Et du rumex.
Et ça, c'est les plantes que vous avez normalement, ordinairement, dans votre pelouse, si vous êtes un forçat de la pelouse. Et ça, vous avez de la salade sauvage toute l'année, c'est comme ça que, bon, moi, c'est vrai que je ne plante pas beaucoup de salade à viser salade dans mon potager. Parce que, de toute façon, il en pousse plein, en fait, en pratique. Voilà. Gridou Rebels nous dit, j'ai un petit peu, entre guillemets, de pucerons sur mon rosier. Alors, elle avait une photo, c'était couvert de rosier. Qu'est-ce que je peux planter à côté pour éviter ça ? Qu'est-ce que je peux faire de façon naturelle pour réduire les pucerons ? Merci d'avance. Alors, des idées ?
Planter à côté, il y a l'ail, enfin tout ce qui est de la famille de l'ail, qu'on peut mettre à côté.
Poireaux, ail, allium,
échalotes, etc. Et après, c'est espérer que les coccinelles vont venir.
Et tu peux les attirer.
Après, on peut évidemment en faire les... en acheter même. Hein. Mais par contre...
Ouais, méfiez-vous, les acheter, parce que maintenant, avec la demande qui a explosé de coccinelles, souvent, c'est des coccinelles chinoises.
Ah oui, mais les asiatiques.
Et qui sont envahissantes. Ça, méfiez-vous de l'origine de vos coccinelles, si vous les achetez.
Mais bon, même sans ça, oui, déjà le rosier, quand il en a, c'est vrai que ça peut être déjà assez tôt en saison. Donc, il faut espérer qu'il y ait eu des pucerons ailleurs en fin d'hiver, sur des féviers ou d'autres choses.
Ou
et que
sur
les...
un sureau. À
et
côté,
que les prédateurs, il n'y a pas que les coccinelles, hein, les cirfes, les mésanges. Et, donc, essayez de résister un petit peu.
Perce-oreille. N'hésitez pas à mettre pas loin un petit bout d'autel à perce-oreille. C'est un pot en terre que vous retournez, vous bourrez de paille, et puis que vous suspendez pas trop loin. Les perce-oreilles aiment bien ça.
Oui, puis de laisser, tout à l'heure, on parlait des pissenlits, de laisser des fleurs jaunes qui vont attirer les cirfes, qui vont manger les pucerons, ou bien de laisser des plantes sauvages justement autour, type, ou avoir des arbres, enfin, les plantes qui vont héberger les pucerons, oui, pour que les coccinelles viennent.
Extrait fermenté.
Après, si on n'a pas la patience, ou etc., déjà, on peut les enlever manuellement. Hein,
sur, oui.
Simplement. Après, on peut aussi mettre du savon noir au dilué avec
ça
de l'eau.
Ça fait les doigts qui collent.
Oui, bon, ben, des gants, si on veut. Après, on peut mettre du savon noir, simplement, qui va asphyxier les pucerons. On n'est pas obligé de prendre une plante afin de faire un extrait fermenté. On peut déjà faire ça mécaniquement, quoi, déjà. Mmh. Et puis après, effectivement, il y a les extraits fermentés, oui, la fougère, la tanaisie, différentes choses. Mmh.
Bref, des solutions, il y en a plusieurs, voilà. Que ce soit en...
Ouais. Mais la meilleure, ce serait quand même de patienter et d'espérer que les prédateurs vont arriver, s'installer. Ouais. Parce que là, c'est sur le rosier, mais les prédateurs, ils vont manger après tous les pucerons, sur les haricots, les pêchers, sur n'importe quoi. Alors que nous, après, il va y avoir telle plante pour tel puceron. Donc c'est compliqué, il faut repérer le puceron, le connaître, le regarder de près, enfin bref.
Ouais, ouais.
C'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans le curatif. Quoi.
Ben, il vaut mieux avoir une approche préventive.
Ouais.
Mais c'est déjà rentré dans le sujet de nos prochaines émissions, je crois.
Même si on parle de l'eau, on parle de la prévention. Hein. Mm-hmm. Même quand on parle du compost, on parle des associations, tout ça, ça fait partie.
Allez, on se fait une dernière question ou pas ? Ouais, limite. Allez, rapidement, Eric Snips. Bonsoir, pour une jardinière hors sol, que faut-il mettre entre la terre et le bac en bois pour éviter que celui-ci s'abîme avec le temps ? Du vide, le surélevé, basiquement.
Oui, l'espacer.
Voilà, si vraiment vous avez envie d'avoir une jardinière hors sol, mettez-la hors sol, mettez-la sur 4 briques,
c'est une
et puis voilà.
Ou un truc comme ça, mais...
Le problème, c'est la solidité, il faut qu'il y ait de l'air qui circule.
Oui, soit ça, soit protéger le bois avec un truc comme pour une maison. Quoi. Mais... Ou sinon, c'est changer le bois tous les 10 ans quand il sera pourri.
Oui, ça peut être une option. Mais bon, vu que la question c'était pour éviter que celui-ci s'abîme avec le temps, c'est un peu dommage. Mais... voilà.
Et ben,
non, mais le surélevé, mettez ça sur quatre briques. Puis en plus, ça peut être un moyen de faire en sorte. Enfin, mettez des pieds à votre bac, c'est déjà un bon début.
Oui, voilà. Puis, mais après, c'est vrai que ça ne va pas pourrir en 5 minutes. Quoi.
Non, ça sera progressif. Et puis...
Après, elle peut prendre du bois, imputrescible. Type de l'acacia, du douglas, des trucs, des bois
mélèze,
qui sont...
Qui peuvent être résistants à ces attaques. Voilà, fin des questions pour cette semaine. Et là, maintenant, on s'écoute Mathieu Bogart.
Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Que viens-tu faire dans ma vie ? Que viens-tu faire dans mon nid ? Tu n'as rien à faire. Pourquoi t'es passé par là ? Tu y étais passé déjà. Je l'avais dit, fallait pas. Non, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Ici, même si tu es doux, je veux pas te laisser entrer. Ça me chatouille partout quand tu viens me caresser. Même si tu es doux, tu fais rien que m'énerver. Tu vas me rendre fou, petit vent de liberté. Tu vois bien qu'il n'y a plus de place ici dans mon petit espace. Va-t'en, tu m'agaces. Non, tu n'as rien à faire. Je veux pas que tu frappes à ma porte. Pourquoi tu veux que je sorte? J'ai bien trop peur que tu m'emportes. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Ici, même si tu es doux, je veux pas te laisser entrer. Ça me chatouille partout quand tu viens me caresser. Même si tu es doux, tu fais rien que m'énerver. Tu vas me rendre fou. Petit vent, arrête de me réveiller tous les jours de l'année à mon oreille soufflée. Je ne t'ai rien demandé. Arrête de me réveiller tous les jours de l'année à mon oreille soufflée toutes ces drôles d'idées. Ah ! Je veux plus que les portes claquent. Je ne veux plus que tout craque. Je veux pas que tu casses la baraque. Je t'en prie, reprends le large. avant de faire des ravages partout sur ton passage. Non, tu n'as rien à faire, 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 rien à faire ici.
Couleur FM 97.1. C'était Mathieu Bogart de l'album Promeneur et c'était le titre Petit Vent, Marie-Laure, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Alors, c'est le choix de Marie-Laure aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi ça ? Ça t'a plu ?
Parce que c'est un chanteur que j'aime bien, que c'est le dernier album et que celle-là particulièrement, je l'écoute en boucle en ce moment. Et puis, il y a un petit vent avec le vent printanier qui. Ça fonctionne bien ensemble.
Ok. Aujourd'hui, c'est le thème de l'eau qu'on reprend. On va pas reprendre là où on en était, on va aller juste plus loin. Et on va aborder en premier la question des arbres. Parce qu'on en a un petit peu parlé, mais pas des masses, beaucoup. Et les arbres ont quand même une importance toute particulière dans la gestion holistique de l'eau au jardin. Pourquoi, Hélène ?
Donc on a déjà évoqué le fait que ça fait de l'ombre, mais au-delà de ça, déjà les arbres vont permettre, si on les met en haie ou si on les met même si un arbre tout seul, hein, ça va avoir d'autres avantages comme être un brise-vent, c'est-à-dire les avantages mécaniques, on va dire, que ça soit l'ombre.
Pourquoi c'est important d'avoir des brise-vents dans un jardin ? Tiens, parce que
par rapport à l'eau, si une plante est exposée au vent, et ben elle souffre et elle va dépenser beaucoup d'eau et elle va dépenser beaucoup d'énergie à pas pouvoir, enfin l'énergie qui sera perdue pour son développement, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait on voit à plein d'endroits marqué faut des brise-vents, faut des coupe-vents, etc. Mais c'est juste que la couche d'air qu'il y a autour de la plante n'a pas la même humidité que le reste de l'air. Et quand il y a du vent, en fait, cette couche d'air est systématiquement enlevée. Et c'est comme si on était en permanence déshabillé de nos fringues, de nos vêtements. Et du coup, la plante est en permanence en train d'évaporer, beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour sa simple nutrition.
Oui, c'est une autre façon de le dire.
Oui. Ouais, non, mais en fait, pour moi, la question, enfin, c'était juste histoire de. Parce qu'on a beaucoup de choses, que ce soit sur Internet ou dans les bouquins, on a beaucoup d'informations qui sont assénées. Il dit il faut un brise-vent, il faut un truc. J'apprécie quand même qu'on arrive de temps en temps à aller chercher l'information qu'il y a derrière, pourquoi on fait les choses. Parce que de temps en temps, il n'y a pas forcément toujours besoin d'un brise-vent.
Non, c'est pour ça que je dis que quand il y a beaucoup de vent, la plante va évaporer beaucoup, va passer de l'énergie qu'elle ne passera pas pour sa croissance. Après, ça dépend. Nous, par exemple, on a habité vers Avignon avec le Mistral. Je ne sais même pas comment les plantes, elles poussent. Hein. Les cyprès, bon, ils poussent tous en travers. Bon, ok,
parce
qu'ils
sont adaptés.
Puis c'est le vent qui les pousse dans ce sens-là. Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc là, il y a besoin de brise-vent. Après, c'est vrai que dans la plaine, je ne sais pas où, dans fond de vallée, ou s'il n'y a pas de vent, on n'est pas obligé d'avoir des brise-vents. On ne dit pas qu'il faut tout le temps le faire.
Tiens, c'est quoi les caractéristiques d'un bon brise-vent ?
Un bon brise-vent ? Eh bien, c'est déjà que ce n'est pas hermétique.
D'accord.
On va dire un brise-vent...
Donc, pas un mur.
Idéal. Non, pas un mur. Aussi un mur pour faire des trous dedans. Ça existe, en Afrique, on fait des murs en terre et puis on fait des petits trous pour que justement l'air circule. Parce que moi, je pensais à ce que tu disais avant sur le fait que la plante, elle a besoin d'avoir de l'air qui circule quand même autour d'elle. Et en particulier, par exemple, les tomates ou toutes ces plantes qui sont sensibles aux maladies cryptogamiques, si l'air est confiné et que l'humidité ne circule pas, il va y en avoir plus, quoi, de maladies. Donc un bon brise-vent, normalement, si on dit une haie brise-vent, ce n'est pas juste un arbre. C'est une haie. L'idéal, c'est d'avoir trois lignes, c'est-à-dire à l'arrière, plus à l'extérieur, des grands arbres qui vont aller jusqu'à, je sais pas, 7-8 mètres. Ça dépend après ce qu'on veut faire avec les arbres. Devant, dans la deuxième ligne du milieu, ça va être des arbres beaucoup plus petits, moins hauts. Et puis en première ligne, ça sera des herbacées, quoi.
Ou des arbustes.
Donc ça peut être... Ou ça peut être des plantes médicinales, par exemple. Ouais. Derrière, tu mets des framboisiers, des groseilliers, des choses un peu plus grandes. Puis derrière, des noisetiers. Exemple, hein. Et par contre, quand on va faire une haie, même si l'optique, c'est d'avoir un effet mécanique de brise-vent, on va toujours avoir de la diversité dans la haie aussi. Et ce qui va apporter aussi d'autres avantages, par exemple sur les auxiliaires du jardin, on va avoir des oiseaux, des insectes, des mammifères, plein d'animaux qui vont vivre dans la haie et qui vont être bénéfiques pour nous. Parce que, je dis ça parce que souvent les gens disent « oui, c'est de la place perdue ».
Mais pas du tout. Et puis ça se mange, la haie.
Voilà, exactement. Des rames pour les haricots, ça fait de la matière organique, ça fait plein de choses. Mais disons que les gens, quand c'est pas leur... Souvent, le réflexe, c'est de dire, je vais pas pouvoir semer ce que
on
je
veux.
On
va mettre du laurier cerise. des tuyas.
Non, ben alors là, non, ça c'est non. L'exemple... Les cimetières, non, c'est pas terrible.
Cimetière. Quoique, typiquement, les éléagnus, ça fait, c'est bien dans les, ça sent bon en automne et ça se mange.
Oui, mais tu peux avoir un. T'es pas obligé d'avoir tout. Exactement. Comme ça. C'est quand on fait de la monoculture, c'est jamais bon de toute façon. Mmh. Que ça soit dans les arbres, dans les haies, dans tout ce qu'on fait. Quoi.
Un des secrets de productivité de l'agroécologie ou de la permaculture, c'est effectivement c'est cette diversité-là, et puis d'avoir plusieurs fonctions pour un même moyen. Et du coup, la haie, c'est quelque chose de cultivé. Vous avez du romarin dans la haie, vous avez de la sauge dans la haie, vous avez,
des auxiliaires.
Des auxiliaires.
Qui vont venir manger vos pucerons, etc. Quoi.
Exactement. Ouais.
Et puis vous avez des fruits, des fleurs.
Des fleurs, du lilas, du forsythia.
Des feuilles, pas de feuilles.
Des feuilles, pas de feuilles, du persistant, du pas persistant. Voilà. L'élagnus, c'est persistant, tiens, par
exemple. Des couleurs, enfin plein de choses, quoi.
Ouais.
La diversité. Donc ça, c'est la fonction brise-vent, mais c'est pas que pour ça que c'est important, les arbres. C'est aussi avec tout ce qui se passe en dessous.
La quoi. Fonction brise-vent, ça a un impact. Alors, ce qu'on dit, c'est que ça a un impact jusqu'à 12 fois la hauteur de la haie, à peu près 10-12 fois.
Ouais.
C'est que le brise-vent a une certaine hauteur, et puis en fait vous allez avoir un effet brise-vent jusqu'à 12 fois H derrière le vent dominant. Donc il y a pas il y a besoin de brise-vent, mais il n'y a pas forcément besoin d'une quantité.
Non, que ce soit très. Voilà. Mm-hmm. Et puis ça ne baissera pas la production globale. Bon, ça c'est plutôt les agriculteurs qui. Parce qu'en bordure de haie, effectivement, on a de l'ombre, etc. Mais cette ombre-là, elle peut servir parce qu'on peut mettre des légumes quand on est jardinier, des légumes qui ont besoin d'ombre. Donc ça ne sera pas forcément pénalisant et le rendement sera meilleur de toute façon sur le reste. Donc,
D'autant que comme il y a cet effet de bordure où il y a, où il y a une plus grande richesse de paramètres, ben, la productivité sera meilleure. Ouais, c'est ce que... Oh là là, aujourd'hui j'aime répéter ce que tu dis Hélène, hein. Franchement je suis ton reformulateur.
C'est de moi, pas de problème.
Un des effets des arbres dont on parle pas souvent, c'est la question de la pluviosité, pluviométrie, la quantité d'eau, parce qu'en fait
la régulation de l'eau,
parce que dans notre région, nous pas très loin de Lyon en climat va dire continental, etc. Bah 70% de la pluie qui tombe, ça nous arrive pas ni des océans ni de la mer. En fait, c'est l'eau, elle a d'abord été évaporée par les arbres et ensuite elle repleut. On a très peu d'eau qui tombe sur le sol par chez nous, c'est de l'eau qui arrive de l'océan ou de la mer, entre guillemets, de manière directe, comme on pourrait imaginer, portée par le vent. C'est beaucoup de l'eau qui est sur place et qui est dans un cycle permanent ou très très court, très très bref. L'évapotranspiration des arbres fait la pluie.
Et en plus, ça protège. Par exemple, s'il y a un gros orage, et ben, avec les feuilles, ça va protéger les plantes qui sont en dessous. Ça va répartir la pluie, l'eau qui va tomber, elle va être répartie. Elle ne va pas tomber brutalement comme ça sur le sol.
Et ça va protéger le sol au cas où il n'est pas, il ne serait pas couvert.
Même les légumes qui poussent dessus. Quoi.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est l'effet extérieur. Mais après, il y a tout ce qui se passe en dessous. Parce que quand on a parlé de l'eau la dernière fois, on n'a pas tellement parlé de pollution. Mais il y a quand même des jardiniers qui polluent. Même avec des produits qui sont naturels, même avec du compost, on peut en mettre trop, par exemple,
et
on peut
avoir des cuivre, pollutions. Du cuivre qui vont bousiller tous les champignons.
Voilà, du cuivre, du soufre, ce qu'on veut.
En agriculture bio, on ne fait pas que du bien.
En tout cas, n'importe quel produit qu'on mette, on peut avoir une concentration et ça peut aller dans les nappes. Et du coup, le fait qu'il y ait des arbres avec des racines, etc., ça va récupérer aussi en profondeur des éléments, des minéraux qui seraient des polluants dans la nappe phréatique et qui sont qui vont être utiles à la croissance de l'arbre et du coup qui seront pas polluants pour la nappe.
Oui, cet effet de différentes hauteurs, on le retrouve aussi avec les différentes couches de racines où on va avoir différentes profondeurs de racines et plus on a de végétaux de différentes hauteurs, plus on a des racines de différentes profondeurs et plus le filtre, le réseau, le maillage, le filet anti-pollution qui arriverait par le dessus va être réduit, que ce soit le phosphate de fer que des gens mettent contre les limaces, que ce soit alors le cuivre, je dis pas que c'est vraiment très bien récupéré par les racines, mais tout ce qui est bouillie bordelaise, le cuivre pour tout ce qu'on utilise contre les maladies cryptogamiques, les
soufres,
etc. Ouais. Mais plus on a de réseaux de racines et moins on a de chances de polluer son eau dans les effluents.
Oui. Et puis l'autre fois, Marie-Laure, elle posait la question de cultiver dans une zone humide. Ben, les arbres permettent aussi de réguler ça et qu'il y ait moins d'accumulation d'eau en surface et que l'eau aille en profondeur, circule. Ça permet verticalement aussi à l'eau de circuler. Quoi. Voilà, donc les arbres, c'est vraiment très, très important par rapport à l'eau, quoi.
Ouais, dans cette approche-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse notre pause musicale à ce moment, et puis qu'on prenne un petit peu plus de temps après, tout à l'heure, pour aborder la suite de nos aventures potables, hydriques, mouillées, humides, couleur terre.
Ici, n'est-ce pas un peu le paradis? Que brillent mes yeux éblouis, tout est merveilleux, merci, 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 je le dis, oui merci, beaucoup, merci, je ne sais qui. Mais merci pour tout. Tout est délicieux, les fruits, le sucre, le goût du miel. Tout me plaît dans ce lieu, me séduit. Merci pour ces dons du ciel. Merci, merci, je le dis. Oui, merci beaucoup. Merci, je ne sais qui, mais merci pour tout. Tout. Et tout ça pour moi, à cet endroit, à cet instant, juste devant, au bout de mes doigts, tout simplement, je le ressens. Tout ça pour moi, à cet endroit, à cet instant, juste devant, au bout de mes doigts, tout simplement, je le ressens, je le reçois. J'aime le parfum, les fleurs, tout dans ce jardin m'émeut, que vibre très fort mon cœur. Vibre mon corps heureux, bercé par le charme des oiseaux, leur mélodie m'enchante, que coulent mes larmes de joie. Oh, si moi aussi je chante, merci, merci, je le dis, oui, merci beaucoup. Merci, je ne sais qui, mais merci pour tout.
Couleur FM 97.1. C'était Merci de Mathieu Bogart de son album Promeneur. Merci d'être avec nous sur Couleur Terre dans cette émission Autour de l'eau. Autour de l'eau, plongeons-y, nageons, immergeons-nous dans cette ressource merveilleuse, mais parfois pas inépuisable. L'eau, c'est aussi la question de la source d'eau qu'on utilise sur son terrain, c'est aussi la question du stockage qu'on fait de l'eau sur son terrain, Hélène. Alors, comme c'est une ressource, je dis Hélène, mais comme je veux dire Titane ou Marie-Laure, ou vous, chers auditeurs, comme c'est une ressource importante, comme la plupart des choses qui sont en flux sur notre terrain, on va tâcher de faire en sorte que, on va tâcher de rallonger le flux d'eau dans notre système ou dans notre terrain, n'est-ce pas?
Oui, mais après ça va être vraiment lié au terrain en question, quoi. L'endroit où on se trouve, le climat, la pente, la pluviométrie globalement, il y a plein de facteurs, quoi.
Moi je vais élargir parce que pour moi le potager, on a déjà donné cette idée-là, mais il est en connexion avec d'autres choses autour. Il est en connexion évidemment avec la cuisine, puisque ce qui en sort va à la cuisine, mais ce qui sort de la cuisine normalement va aussi au potager. des sources d'eau, une source d'eau basique, c'est de récupérer l'eau de, sa, de son lavage de salade. Enfin, ça peut être.
Ah.
Ouais, oui, mais oui.
Oui, moi, je pensais plus récupérer avec la pompe, par exemple, parce que bon, moi, je suis plutôt une montagnarde et que c'est un système qui, classiquement, les gens récupèrent soit par des barrages. Mmh. Je parle pas des grands barrages, mais petits barrages dans les rivières. Ils font des réserves, des bassins, des choses comme ça pour stocker l'eau, quoi.
Quel genre de stockage on utilise? Plastique, béton?
Non, moi, plastique, moi, c'est ce que j'en pense.
Ouais, c'est pour ça que tu as dit ça.
Après, par contre, le béton, ben, là, c'est embêtant à dire, mais c'est vrai que apparemment, le matériau le plus inerte et donc le plus à même de garder, de conserver la qualité de l'eau, c'est le béton.
C'est le béton, oui. Ouais,
ouais, donc, c'est pas très satisfaisant écologiquement, on va dire, mais.
Non.
C'est pas, enfin, c'est déjà. Enfin, par rapport au plastique, je suis pas sûr que ce soit mieux, mais.
En
c'est ce qui garde
grise.
Mieux le, voilà, et ce qui garde mieux la qualité de l'eau.
Et puis ça a un impact aussi sur la minéralisation de l'eau. En fait, ça va rééquilibrer le pH de l'eau grâce, me semble-t-il, je ne sais pas dire une bêtise, grâce au carbonate que ça peut contenir. Ça, je suis incertain. Ouais. Sur
après, pendant moi, j'ai habité pas mal de temps en Cévennes. Les systèmes classiques, c'était de la pierre, de construction en pierre avec de la chaux, et les gens faisaient un peu comme le tas de lacte dans les pays maghrébins, enfin un système d'imperméabilisation en passant plusieurs fois des enduits sur les bords des bassins, donc ils faisaient sans le ciment, quoi. Ils faisaient à la chaux, quoi. Ou à l'argile, à la chaux, et ça fonctionnait bien aussi.
Ouais. C'est pour le stockage, et puis je disais, ben, on va tâcher de rallonger le temps de résidence de l'eau sur le terrain. Donc, une des réserves d'eau dans votre terrain, c'est le sol, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et quand je dis rallonger le temps de circulation, c'est que si votre eau, elle reste, entre guillemets, dans votre système accessible seulement sur les 40 cm qui séparent la sortie de votre robinet du trou qui est au fond de votre évier, ben, vous avez beaucoup moins de possibilités d'utiliser la richesse de cette eau-là, alors que si l'eau de votre évier, elle va dans votre phytoépuration, par exemple, et que là-dessus, vous avez une culture, j'en sais rien, de riz, je vais dire, une chose comme ça, ou de massette, ou que c'est de
cresson.
De cresson, de châtaigne d'eau. Et puis que sur cette eau-là, derrière, vous allez pouvoir vous en servir éventuellement pour la baignade, si jamais vous avez un grand espace de phytoépuration. C'est pas dit, hein, si vous avez juste un appartement avec un balcon, n'essayez pas de faire de la phytoépuration. Mais disons qu'après la phytoépuration, cette eau, elle peut encore circuler un moment en faisant des méandres sur votre terrain pour être dans un espace où elle va peut-être stagner différemment. Vous allez pouvoir la dynamiser en la faisant passer dans des fontaines, des vasques dynamisantes. Et puis au final, votre trop-plein va peut-être aller en direction du jardin. Et là, en fait, votre eau a été utilisée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on se rend compte que le problème n'est plus tellement une question d'approvisionnement, mais bien une question de gestion de l'eau, parce que quand on est dans un monde où on utilise 150 litres d'eau par jour et par personne, je crois, c'est à peu près ça. Enfin, moi, je sais que ça, je suis très en dessous de ça, mais normalement, enfin, la plupart des gens sont en dessous de ça.
Ça reste
beaucoup, mais quand bien même la moitié, ce serait quand même très très élevé. Oui, ben, ça fait deux, si vous êtes quatre, ça fait quand même 4 fois 2, 70, 280 litres d'eau par jour, ça fait effectivement, ça fait vraiment goût, ça fait un mètre cube tous les 4 jours, et en fait là vous vous rendez compte que avant d'aller chercher de l'eau dans des puits, parce que ça peut être très bien, ou d'aller faire des récupérations monumentales, ça peut valoir le coup de plusieurs fonctions, un seul moyen, d'utiliser l'eau que vous utilisez déjà, et qui en plus est chargée de matière organique, et qui du coup va être d'autant plus riche de matière, qui devient une ressource pour votre jardin. Comment pouvez-vous utiliser ça? Et en plus, ça fait de la diversité d'écosystèmes dans votre jardin. Vous vous retrouvez avec
d'avoir
une
mare, ça c'est très important.
C'est une richesse hallucinante. Ne serait-ce que ça reflète le soleil, mais ça.
Ça apporte une autre flore, une autre faune et tout ça. Donc c'est hyper important comme écosystème. Comme tout à l'heure sur les arbres, par exemple, un arbre c'est un écosystème aussi. Mm-hmm. Et plus on aura d'écosystèmes différents, mieux ça va fonctionner.
Oui, parce que ça va être de plus
et
en
après,
plus stable, résilient.
Et puis
en fait.
Plus on aura de biodiversité. Et plus aura... Mais par rapport à ce que tu disais sur la consommation d'eau, je pense qu'en ville et à la campagne, c'est quand même un petit peu différent. Enfin, problématiques sont différentes, les solutions vont être différentes, en tout cas dans notre pays, parce que c'est pas conçu, les immeubles ne sont pas conçus avec de la phytoépuration sur les derniers étages, enfin, il y a des endroits où il y a de ça, mais avec un double circulation d'eau pour, qui permettrait justement de récupérer des eaux pour aller dans les toilettes, des choses comme ça. Quoi. Chez nous, c'est pas trop...
Ça se produit à l'échelle individuelle.
Voilà, alors en milieu rural, voilà, c'est plus... Oui.
Ça peut se produire aussi sur, avec des récupérations d'eau de pluie sur le toit, oui, avec certaines toitures végétalisées, où il y a la circulation pour les WC, pour les douches, etc. Enfin, pour les douches.
Oui, puis quand on est en milieu rural ou semi-rural, c'est pas compliqué de garder l'eau de la salade ou je sais pas quoi, de la mettre dans un arrosoir. Mmh. Par exemple, quand on est en ville, bon, ben, tout de suite, ça fout de la place.
Là, le cas de double circulation que j'ai, c'est à Annecy. Donc, c'est urbain, c'est pas exactement la campagne. Ouais. Garder l'eau pour sa jardinière, ça, c'est typiquement un truc qu'on peut faire de manière urbaine sans aucun souci. Quand on a acheté des épinards et puis qu'on les a lavés, clairement, on peut avoir de l'eau à revendre et à mettre sur son balcon.
Il faut avoir quand même un peu de surface dehors.
Pour... Oui, souvent quand on commence à faire ça, on se rend compte qu'on a trop d'eau par rapport à l'usage pourrait en faire. Mmh. C'est ce qui est là, d'un seul coup, on n'est plus dans un truc de comment je pourrais avoir récupéré de l'eau. En fait, on a
comment
déjà.
C'est pour ça que c'est deux problématiques vraiment différentes. Quoi. Disons, si on a de la terre autour de soi, de la culture, ou si on est dans des HLM, pas forcément. Même des immeubles de luxe, n'importe ce qu'on veut, en cage à lapin, quoi. Plus ou moins de luxe, pareil.
Cage à lapin de luxe.
Oui, mais c'est pareil, c'est des cages à lapin quand même.
Hein. Oui, bien sûr. Amis lapins milliardaires, n'hésitez pas à faire une donation sur radioperma.org si vous nous écoutez, mais j'avoue, j'ai des doutes. On n'a pas encore de milliardaires qui nous soutiennent. On a deux donateurs qui nous donnent chacun 5 euros. Merci à eux, mais si vous pouvez en avoir plus, ce serait mieux. Oui, je place ma pub de temps en temps.
On disait quoi? Alors récupérer le... Oui.
On disait que c'était bien de faire durer, le temps de résidence de vos ressources sur votre terrain de manière à ce qu'il soit réutilisé.
Ouais. D'avoir le réflexe en tout cas de ne pas laisser filer l'eau tout le temps. Même si la plupart des gens disent oui, mais ici on s'en fiche, on n'est pas en Afrique. Mais ça n'a rien à voir.
La dépollution de l'eau, c'est une vraie question.
On a plein d'eau, pourquoi voulez-vous qu'on fasse ça?
C'est juste une question simplement d'économiser la purification, parce que techniquement c'est très énergivore, c'est cher, que ce soit la purification dans un sens comme dans l'autre, c'est loin d'être évident. D'ailleurs, là-dessus, c'est une remarque, enfin, pour information, dans notre pays pour l'instant, on ne peut pas utiliser de l'eau de pluie pour remettre en circulation dans l'évacuation d'eau.
Parce que deux systèmes différents.
Normalement, il faut que ce soit deux systèmes différents, si jamais. Voilà,
nous, on l'a fait, ça, pareil. On a récupéré l'eau de pluie dans des cuves en ciment. C'est là qu'on a su que c'était ce qui avait le plus performant. Par contre, il y avait un double réseau de... On ne pouvait pas la faire parce qu'on paye, en fait c'est économique, parce qu'on paye pour recycler l'eau qui arrive chez nous, elle est recyclée. Et si l'eau de pluie, on ne peut pas contrôler le volume. Donc, on ne sait pas quel volume va être recyclé. Donc,
c'est ça. Le nettoyage de vos effluents est payé par l'eau que vous achetez. En fait, le prix de nettoyage de l'eau est inclus dans le prix de l'eau que vous achetez. Donc, vous ne devriez pas normalement mettre dans le réseau d'eau usée de l'eau qui vient de la pluie.
Oui, mais en même temps, comme il y a de l'eau qu'on paye, qui rentre chez nous et qu'on met dans le jardin. Quelque part,
ça
ne devrait pas non plus.
Hein. Normal. Ça se compense.
Pour le recyclage de l'eau qu'on n'utilise pas.
Bah, puisqu'on est sur ce sujet-là, puis après on reviendra un peu au jardin, parce que là, on éloigne un petit peu. Mais ne faites pas couler l'eau chez vous exprès pour diluer vos effluents. Le nettoyage de l'eau marche beaucoup, beaucoup mieux quand les eaux sont très chargées. Voilà. Étant gosse, j'avais cette idée-là, folle et merveilleuse, que c'était pas grave si l'eau coulait, parce que quelque part ça faisait de l'eau beaucoup plus propre dans la nature. Mais d'une part, l'eau qui coule de votre robinet est trop propre pour la nature. Elle est vraiment trop propre et puis pleine d'eau de Javel, de chlore, de choses comme ça. Et en plus, les systèmes d'épuration marchent mieux quand l'eau est bien chargée. Bon, on va revenir un peu au jardin. Après cette digression, mais qui quand même tient compte de nos lieux de vie, c'est aussi ça, la permaculture, ce n'est pas qu'une histoire de jardin. Et reconnectons-nous, parlons un petit peu de la mare peut-être, parce que tu as dit que c'était important d'en avoir une, parce qu'on en a encore très très peu parlé. Quelle taille, quelle profondeur une mare dans un jardin? Parce que ça peut servir, la mare, ça peut être à la fois une réserve d'eau, ça peut être une réserve de biodiversité, ça peut avoir une fonction de rafraîchissement, ça peut avoir une fonction de réflexion de lumière. De piscine, oui.
Ça parce dépend
que
de la taille.
Après, ça dépend de la taille de la mare. On rentre plus dans l'étang à ce moment-là.
Oui, ça, on a dû en parler au tout début avec les écosystèmes, quoi. Mais d'avoir un point d'eau, moi, je dirais, c'est pas forcément une mare, parce que même si on a un point d'eau, de l'eau stagnante, on va dire, quelque part dans le jardin, ça va être important, ça va attirer évidemment des moustiques. Alors les gens disent non, parce que ça va attirer des moustiques.
Ouais, tu mets
mais
un poisson.
S'il y a des moustiques, voilà, ça, on peut mettre des poissons, il y a les oiseaux, enfin bon, ça crée d'autres chaînes alimentaires.
Poisson, même un poisson rouge, ça peut le faire, hein, ou
ouais.
une carpette.
Mais moi, je dirais que c'est indépendamment même.
Une carpette, c'est une petite carpette.
Dans le hamac. Non, mais en tout cas, indépendamment de la quantité, de la gestion de l'eau, la mare, c'est important déjà pour l'écosystème que ça représente, quoi. Et donc, tout ce que ça va permettre comme biodiversité, comme lisière et comme diversité de faune, de flore et d'auxiliaires, de prédateurs, de tout, quoi. Mmh. Donc ça, c'est important.
Un crapaud.
Après, voilà, alors après, oui, des crapauds, des poissons, des insectes, beaucoup d'insectes. Et en plus, ça va permettre à des insectes de venir boire. Donc ceux qui viennent pour polliniser votre jardin, ils peuvent boire en même temps, donc c'est sympa. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit une grande taille.
Non.
La taille de la mare, ça va être proportionnelle à la taille du jardin, à l'eau qu'on peut avoir. Parce que c'est quand même mieux si ça peut circuler un petit peu. Ce n'est pas obligé, mais...
Après, il peut y avoir des mares. J'ai déjà vu des modèles, entre guillemets, de gens qui faisaient des mares avec des pneus, des bâches, des choses comme ça.
Des bâches.
En stabilisant la terre avec des pneus enterrés,
oui,
des bâches comme ça. Ça peut aussi être la mare, ça peut être pensé comme une zone d'infiltration, parce qu'il va y avoir un débordement à un moment de cette mare-là. Mmh. Donc chaque fois que vous avez une récupération potentielle d'eau de pluie, plutôt que de remettre ça directement si vous avez une surface de toit, vous pouvez remettre ça, faire un débordement dans la mare. Hein. Et puis la mare elle-même, vous pouvez faire un débordement. Ça, c'est important de penser le trop-plein quand vous avez des zones vous faites des récupérations d'eau de pluie. Sinon, votre trop-plein va se produire de toute manière. Donc, il faut le penser. Puisqu'on est sur la réserve, il y a la question de quelle est la taille d'une réserve d'eau qui revient de temps en temps. Regardez la consommation d'eau que vous faites.
Et puis la pluviométrie de là où vous êtes aussi.
Et la pluviométrie de là où vous êtes. Regardez combien d'eau vous utilisez, vous êtes susceptible d'utiliser sur une année. Faites votre mesure. Et ensuite, regardez combien de jours sans pluie, les plus longues sécheresses que vous avez eues dans votre lieu de vie. Et puis vous savez qu'en fait, il va falloir le nombre de jours de sécheresse que vous les teniez. Donc si vous consommez 150 litres d'eau par jour et que votre sécheresse la plus longue, c'est 30 jours, il faudra avoir une réserve qui fait 30 fois 150 litres. Je vais faire le calcul. Bon,
oui, sauf qu'il faut quand même qu'il pleuve, quoi. Il faut quand même tenir compte de la pluviométrie, la répartition des pluies.
Effectivement,
parce que s'il pleut tout d'un seul coup, il faudra avoir des grandes cuves, même si...
Voilà, il va falloir dimensionner vos cuves à votre localisation.
Oui.
C'est très fréquent qu'on ait des gens qui arrivent... au bout de 15 jours avec leur gros mètre cube qui paraissait énorme quand ils l'ont installé, mais un mètre cube en réalité ça part très très vite.
D'où l'importance d'économiser l'eau,
de l'importance d'avoir une gestion holistique de l'eau comme nous tâchons de vous l'enseigner ici autant que faire se peut, surtout que en plus le fait de faire stagner de l'eau, ça a un impact sur la qualité de l'eau, sur ce que l'eau va apporter comme information. Mais ça, je crois qu'il va falloir qu'on en parle après la pause, hein. Allez, une troisième pause musicale, Mathieu Bogard.
Il arrive en ville de son voyage, il arrive seul, sans bagage. Toute la foule se bouscule à son passage, toute la foule se rappelle son visage. C'est le glorieux. Il arrive en ville sans son cheval. Oui, il arrive seul au final. Peut-être bien qu'il serait tombé mal, lui qu'on pensait en selle, sans rival, sans rival. Le glorieux, le glorieux, le glorieux, celui qui avec son épée faisait tomber les murailles et qui était parti pour gagner la bataille. Celui qui avec son épée, sa force, sa taille, devait ramener fiancé, fiançailles. Lui comprenait pour un héros, un homme. Lui, depuis toujours, qu'on voyait comme le bon, le vaillant, le meilleur, en somme. Le plus beau, le plus grand, celui qu'on nomme, le glorieux, le glorieux, le glorieux, le glorieux, le glorieux, celui qui avec son épée faisait tomber les murailles et qui était parti pour gagner la bataille. Celui qui, avec son épée, sa force, sa taille, devait ramener fiancé, fiançaille. Mais il arrive qu'elles finissent mal. Les histoires sont cruelles. La morale, c'est que vouloir la plus belle lui fut fatal. Il l'a perdu en duel. Au final,
Couleur FM 97.1. Le Glorieux, c'est le titre de, que vous venez d'entendre de Mathieu Bogart, de son album Promeneur. Alors, quand on fait stagner de l'eau, il paraît que ça diminue sa qualité, c'est vrai ça? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, après, qu'est-ce qu'on entend par qualité de l'eau? Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité de l'eau? C'est compliqué parce qu'en fait...
Il y a plusieurs niveaux de qualité de l'eau.
Il y a plusieurs niveaux. Alors déjà, ce qu'on peut dire au départ, c'est que l'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Mm-hmm. Hein, c'est H2O. Mais en fait, ce H2O, c'est une molécule, mais qui est rarement toute seule. C'est-à-dire qu'ils vont s'agglomérer, les molécules vont s'agglomérer entre elles. Il va y avoir plein d'H2O multipliés par des milliers de fois. Et donc, ce pack, ça va faire un gros paquet, quoi. Donc c'est ça ce qui va se passer quand l'eau stagne. L'eau fait des espèces d'agglomérats de molécules de H2O. Et donc là, l'eau n'a aucune capacité quand elle est comme ça. Ni d'hydrater, ni de récupérer des particules qui sont à évacuer, parce que l'eau est largement plus importante parce qu'elle permet d'évacuer que parce qu'elle apporte.
Disons tu veux dire deux, qu'en quoi. Fait, le fait qu'elle s'organise de cette manière-là... Fin... on appelle ça un dipôle, enfin bref, qu'elle s'auto-organise un petit peu, ça réduit ses capacités à solubiliser des choses.
Voilà,
ça
ou à accrocher quelque chose sur... Voilà. Donc quand on parle de qualité de l'eau, déjà, ça va être de l'eau qu'on va dissocier pour que les molécules d'eau soient indépendantes les unes des autres.
Secouez-moi, sinon exactement. L'eau, elle reste comme ça.
Voilà. Bah oui, même pour nous, hein, l'eau, elle est plus importante par tout ce qu'elle va permettre de nettoyer et évacuer de notre corps que juste de la boire. Hein. Donc déjà ça, donc après, pour une fois qu'elle est dissociée, que la molécule d'eau se retrouve isolée, elle va pouvoir accrocher des choses, soit qu'on va mettre dans les extraits fermentés ou autre chose parce qu'on veut que ça soit apporté à la plante ou au sol, soit pour évacuer des choses qui doivent être évacuées. Donc effectivement, on peut la secouer, on peut faire, parce que ce dont tu parlais tout à l'heure, faire des vasques qui vont permettre à l'eau de faire comme dans la nature, quoi. Dans une rivière, l'eau, elle va s'oxygéner, elle va bouger, elle va passer, elle va... bouillonner et elle va se régénérer comme ça et elle va se nettoyer aussi comme ça. Donc ça, dans un jardin, c'est plus compliqué. Donc on va soit le créer en créant un système de mare ou
de circulation,
de vase ou quelque chose comme ça, soit on va secouer, par exemple, si on prend des bouteilles ou ce qu'on veut, on peut les secouer effectivement comme ça à la main, soit on a des systèmes aussi qui vont créer des vortex avec des... On prend deux bouteilles et puis on met une espèce de raccord entre les deux, on retourne et l'eau va passer dedans, ça va créer un vortex. Donc le vortex, en fait, va permettre justement ce mouvement qui va régénérer l'eau. Et l'eau va devenir ce qu'on appelle de l'eau vivante. Et en fait, c'est ça dont on a besoin.
Parce que d'habitude, elle est morte.
Voilà. Ah complètement. Bon, oui. Elle est morte. Alors que bon, nous, après, ce qu'on veut, c'est minéral, de l'eau. Alors. Non ? Oui, enfin, c'est un minéral, mais qui va accrocher tout ce qui est vivant. Donc, c'est quand même le support de la vie, c'est quand même ça, quoi. Parce que si on n'est que des chaînes carbonées, il n'y aura pas beaucoup de vie. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ensuite, quand. Donc, ça, c'est la. Enfin, c'est pas que mécanique, mais disons, voilà, déjà, de faire bouger l'eau ou de la dynamiser d'une façon ou d'une autre. On peut aussi la dynamiser avec des moyens énergétiques. On n'est pas obligé que ça se voit, quoi. D'accord. On peut faire ça. Mais après, il y a tout ce qui est qualité de l'eau au niveau biochimique. C'est pour ça que j'avais pris la petite carte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la bioélectronique de Vincent.
Non, ça alors non, je ne connais pas la bioélectronique de Vincent. Ben oui, c'est vrai. D'une manière générale, je tâche de dire la vérité, j'y arrive le plus du temps.
D'accord, donc la bioélectronique de Vincent. En fait, c'était un médecin qui a. Je crois qu'il est un chimiste, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un homme qui a travaillé sur différentes qualités pour que l'eau soit favorable à la vie et ne soit pas favorable à tout ce qui est parasites, etc. Et en fait, il y a plusieurs critères dans l'eau. Il y a le pH, donc qui donne l'aspect plus chimique de l'eau, mais il y a aussi la résistivité, donc l'aspect électrique, et l'aspect oxydoréduction.
Le pH, c'est acide, base. Acide. Résistivité, c'est la capacité à conduire l'électricité, et
l'oxydoréduction.
L'oxydoréduction.
Donc la perte ou le gain d'électrons, les mouvements d'électrons à l'intérieur. Et en fonction, en croisant ces trois critères-là, en fait, il y a des qualités d'eau qui sont favorables à la santé et à la vie, et d'autres qui vont être plus favorables à des parasites ou à des champignons. Alors, comme c'était beaucoup pour la santé humaine, à des maladies, des cancers, etc. Et donc, il a beaucoup travaillé là-dessus et mis des systèmes en place pour obtenir de l'eau de la meilleure qualité possible. Donc ça, ce sont des critères biochimiques, qu'on veut dire. Donc ça, c'est important. Et après, c'est pas forcément facile d'avoir les informations parce que, évidemment, toutes ces méthodes-là, elles sont pas très, très répandues. Donc, mais ce qu'on peut déjà faire facilement, c'est de jouer sur le pH de l'eau. C'est-à-dire, si on a une eau qu'on sait qui est calcaire, par exemple, et ben on va rajouter du vinaigre blanc, ou du citron, ou du petit lait, ou ce qu'on veut, pour qu'elle soit légèrement acide.
Y compris pour arroser au jardin, par
tout
exemple.
Tout le temps, voilà, pour arroser. Ben, on dit que c'est l'eau de pluie la meilleure, l'eau de pluie, même sans parler des pluies acides, l'eau de pluie, elle est légèrement acide. Donc, dans le jardin, comme pour nous, ce qu'on boit, il faut de l'eau qui soit peu minéralisée, comme de l'eau de pluie, et légèrement acide. Donc, si on a de l'eau qui ne l'est pas, on va l'acidifier. Et donc, moi, ce que j'ai souvent, quand je fais les extraits fermentés ou tout ça, que je parle de l'eau, j'ai une petite bande de pH, là, un petit rouleau de papier pH, et on trempe ça dans l'eau et on voit facilement.
Ça se trouve où, le papier pH ?
Bon, à la pharmacie.
OK.
Après, on peut trouver des bandelettes, c'est plus précis, mais c'est plus cher. Et puis, les petits rouleaux, ça, c'est pas très cher. Et voilà, déjà, ça fait une base. Si déjà on fait ça et qu'on dynamise l'eau, on sait qu'on a une eau qui va être de bonne qualité pour les plantes, pour le sol, pour tout ce qui est vivant, quoi. Parce qu'en fait, on est tous faits de ça. Hein. C'est pas ce qui est valable à ce qu'on dit pour les plantes ou pour le sol, c'est valable pour nous aussi. Hein.
Et après, en ce qui concerne les pollutions de l'eau chimiques, type pesticides, nitrates, etc. Enfin, les nitrates, pour le coup, c'est des nitrates, c'est moins, peut-être un peu moins grave pour le jardin, puisque là, pour le coup, c'est que... Ça amène.
Oui, peut le récupérer. Oui, non, ça. Juste, je voulais finir par rapport à l'eau qui est dynamisée dans les jardins, parce qu'il existe maintenant des embouts, justement, qu'on met sur les tuyaux. Et c'est, en fait, ça fait comme une forme de spirale dans cet embout. Et quand on fait passer l'eau là-dedans, ça fait tourner l'eau, et du coup, ça la dynamise. Et ça, c'est pas mal, parce que ça fait, disons, le minimum pour que l'eau soit un petit peu plus vivante qu'à la sortie du robinet, quoi. Ou de l'arrivée d'eau, quelle qu'elle soit. Parce que quand on récupère de l'eau de pluie ou qu'on la laisse stagner dans n'importe quel récipient, eh bien, elle devient inerte. Donc, on a intérêt à la revivifier en la faisant bouger d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est vraiment hyper important.
Pesticides, composition, ça se fait de faire analyser son eau de robinet.
Oui, de toute façon à la mairie normalement. Oui, à la mairie t'as toutes les analyses de l'eau de chez toi. Hein.
Ah, je savais.
En 10 ans. Il y a 6 mois, il fallait pas boire.
Des fois, je suis obligé de faire l'andouille quand même, parce que on était censé compter sur Titane pour poser des questions idiotes, et en fait, elle le fait pas. Donc.
Non, la qualité de l'eau du robinet, elle
est. Des questions intelligentes, alors.
Mais la question, mais l'eau de pluie, par exemple, si tu récupères l'eau de pluie, oui, la première eau qui tombe, elle fait tomber toutes les poussières qui sont en suspension dans l'atmosphère, donc tu as toutes les saletés qui arrivent dedans. Et donc, moi, j'ai vu des gens, ils font comme un système de chasse d'eau. Avant, et donc, l'eau tombe, quand la chasse d'eau est pleine, ils la vident, et après, ils récupèrent l'eau. Parce que là, tu récupères toutes les saletés qui sont dans l'atmosphère.
Moi, j'avais vu ça aussi sur des systèmes de bascule dans le Bill Mollison. Il y a des systèmes où on récupère. Ouais. On ne récupère pas les premiers litres qui passent sur le toit et on récupère seulement les litres suivants.
Ouais, surtout quand il ne pleut pas beaucoup. Enfin, quand tu récupères après tout un grand temps de sécheresse, tu as de l'eau qui est vraiment pas terrible.
Qui n'est pas top quand on est en bord de route ou ce genre de choses. Ouais.
Après, pour les pesticides, dans le jardin, t'as pas, enfin, je veux dire, si tu prends l'eau de pluie et qu'elle est bourrée de pesticides parce que tu habites à côté d'un incinérateur ou je ne sais pas quoi.
Ça, normalement, l'eau de pluie, c'est clairement, ça ne doit pas être bourré de pesticides.
Non, voilà, ça c'est
peut
ça.
Il peut y avoir de la dioxine si on est à côté d'un incinérateur. Il peut y avoir.
Oui, enfin, c'est pesticides au sens large, des biocides.
Quoi, oui, si il peut y avoir des biocides, effectivement, mais pas volontairement.
Oui, voilà. Mais après, voilà. Après, y a, c'est vraiment le fait de vivifier l'eau, je trouve, qui est le plus important. Quoi. Et après, bon, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi par rapport à l'information qui est portée par l'eau, parce qu'on sait que c'est l'eau qui porte toutes les informations. Et quand on fait des extraits fermentés, justement, on va travailler beaucoup avec ça.
Alors
plus en biodynamie. Eh ben, par exemple, si tu fais en biodynamie, on met 500 grammes d'une préparation, on met ça dans 100 litres d'eau, donc c'est trois fois rien, il n'y a rien du tout. Quoi. Mm-hmm. Et on va dynamiser l'eau pendant longtemps, dans un sens, dans l'autre, on va tourner, etc. Et donc, ce n'est pas de la matière qui va s'accrocher à l'eau, là. C'est vraiment l'information qui est portée par ce qu'on met dans l'eau, qui va être accroché et qui
comme
va passer par...
Comme un peu avec l'homéopathie.
Oui, c'est pareil.
Exactement pareil,
oui.
D'accord. Okay.
Oui, oui, ça, c'est les travaux de Benveniste. Enfin, c'est la suite.
C'est la mémoire de l'eau.
La mémoire de l'eau, voilà.
Si on veut aller plus loin sur ce sujet-là, on peut avoir quoi comme référence de livre?
Eh bien, après, il y a tous les... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Ben, lui aussi, il est mort. Tiens, on parlait des morts tout à l'heure. Mais ça fait... Il est mort là.
Oui, hors antenne, parfois nous parlons des morts, chers auditeurs, mais c'est juste parce que là, on a perdu Chuck Berry il n'y a pas très longtemps et c'est que Titane avait choisi ça comme disque et finalement, on ne l'a pas pris. Il faut que vous soyez au courant de la cuisine interne de cette émission puisque Mélène ne peut pas s'empêcher de vous en parler.
Moi, c'est plus vivant comme ça, on n'est pas mort. Non. Donc, Masaru Emoto, c'est un médecin japonais qui a beaucoup travaillé justement sur l'eau et qui a travaillé avec son équipe, hein, pas tout seul, sur la cristallisation, la capacité de l'eau, quand elle est de bonne qualité, à faire des cristaux. Mmh. Et il a travaillé dans plein d'endroits différents dans le monde, sur des sources, sur de l'eau de ville et tout ça. Et il a fait le lien, d'une part, entre le fait que l'eau était de bonne qualité quand elle cristallisait, et d'autre part, que l'eau pouvait porter des informations et les transmettre soit chez l'homme, soit chez la plante, soit...
Et on peut avoir plus d'infos avec son livre « L'eau, mémoire de nos émotions » chez Très Daniel.
Il faut chercher Masaru Emoto, E-M-O-T-O, sur Internet. Ouais. Et donc, il y a les travaux. Alors, je ne sais pas s'ils vont être continués ou pas maintenant qu'il n'est plus là. Et puis, un livre que moi, j'aime beaucoup. Alors, Jacques Collin, je ne sais pas si vous le connaissez, Jacques Collin. Non, ça ne vous dit rien. C'est un homme qui habite dans la région lyonnaise, qui a fait une conférence l'an dernier sur ce thème-là, « L'au-delà de l'eau ». Où justement il parle de la capacité de l'eau à porter les informations et à les transmettre.
Et c'est encore chez Très Daniel, Guy Très Daniel, c'est un multirécidiviste.
Et celui-là, moi je vais le relire, je l'ai lu, mais il y a tellement d'informations que j'en oublie à moitié.
Mais ça, c'est autour de l'eau, la qualité
de l'eau. De l'eau, mais l'aspect sensible de l'eau, quoi. Parce qu'en fait, tout ce qui est vivant, même si on regarde depuis la nuit des temps, ce qui existe depuis le début, c'est de l'eau, quoi. Quand tu as un spermatozoïde et un ovule ensemble, c'est de l'eau qui porte l'information et qui fait qui on est aujourd'hui, quoi.
Dans la série des livres, là, j'ai le guide malin de l'eau au jardin, écologie et économie, de Jean-Paul Torres, aux éditions Terre Vivante. Petit livre, il est de 150 pages.
Il est très
pages,
pratique, celui-là. Ouais, il est bien.
Qui est très, très pratique, découpé. Comme sont les manuels Terre Vivante, hein, bien souvent, avec des choses très, très pragmatiques et en même temps un fond théorique qui permet de comprendre ce qu'on fait.
Après, j'ai pris celui-là, parce que, image sonore de l'eau. Parce qu'en fait, on se rend compte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler avec les animaux, quand on mettait de la musique dans, enfin, quand on met de la musique dans les étables, par exemple, etc., les vaches font plus de lait, enfin, ça influence les animaux. Mm-hmm. Et il y a des travaux en ce moment qui se font sur les plantes, où on se rend compte que les plantes sont sensibles aussi à ça, à la musique et à ce qui peut se passer au niveau sonore autour d'elles. Et donc là, il y a des études assez poussées quelquefois, mais avec des images aussi.
C'est
sur
superbe que, comme image.
Oui, c'est très beau.
Oh là là.
Est-ce que, et c'est l'eau qui réagit en fait à son environnement. Et ça, on le prend quand même peu en compte, alors qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment que notre jardin fonctionne ou pas, mmh. qu'il est agréable, qu'il est harmonieux, et tout quoi.
Mmh. Image sonore de l'eau par Alexander Lauterwasser. Ah ben, c'était prédestiné. Mmh. Wasser. Lauterwasser, édition Médicis. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire?
Alors, sur l'eau, c'est vrai qu'il y aura encore plein de choses à dire, parce que c'est, par exemple, tout ce qui est autour de la géobiologie, la communication avec les plantes, etc., qui existe depuis longtemps, mais qui, disons, est un peu plus connu maintenant, l'approche, la co-créativité, etc., c'est basé, le vecteur, c'est l'eau, quoi. Et après, il y avait ce numéro Kaizen qui était intéressant, mais plus sur de l'eau au niveau macro...
Macro développement, macro des gens, des êtres humains, tout ça.
Voilà, comment faire pour que tout le monde ait de l'eau de qualité, parce que là on parle de qualité de l'eau, mais il faut savoir quand même que sur la planète il y a plein de gens qui boivent de l'eau qui est imbuvable.
Numéro 5, novembre-décembre 2012, donc il date un petit peu.
Oui, ouais, oui, mais je pense que ce qui est dedans est toujours d'actualité.
Et puis on va aller vers la fin.
Voilà, en tout cas l'eau, c'est vrai que c'est vraiment la base de notre jardin, des plantes et de la vie, quoi.
Bon, ben, merci beaucoup, Titane Feuillette. Elle est passionnée.
Ah oui.
Avec
images sonores.
Splendide.
C'est des beaux mandalas.
Oui, c'est beau. Hein. Et même les cristaux, là. Et en plus, ce Emoto, il soignait des gens qui étaient cancéreux et il donnait des informations à l'eau, qu'il donnait à boire après à ses patients, qui, en fait, avaient la courbe inverse de la courbe de l'eau du patient. Et qui les aidait à guérir. Incroyable. Un peu comme pour le son. Mm-hmm. En fait, ça a été utilisé pour le son. Quand on met un anti-son, on crée du silence, quoi.
Bon, il faut que je vous coupe. Hein. Bref, c'est passionnant, oui. Mais... Okay. Mais c'était Couleur Terre. C'est passé maintenant, votre heure s'est écoulée. C'était Couleur Terre, une émission élevée en pépinière, où on trinque grâce au... Moyen technique de Couleur FM en Isère, une émission préparée par Titane Houben avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Flo Emsev de Radio Permaculture avec Hélène Ollard et aujourd'hui encore Marie-Laure. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions, comme vous recevrez de la pluie si vous êtes une salade. Couleur Terre, cultivons la vie. À bientôt.
À bientôt, merci à tous.
Merci beaucoup.
Couleur Terre, cultivons la vie. Une émission animée par Hélène Ollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sev, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.